On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Les navets blancs, les rutabaga ou les navets à vache qu'on appelle. Les céréales aussi, il ne faut pas oublier que peut-être les légumes qu'on pense pas.
Vraiment magnifique. Ça, c'est le chervi. C'est la même famille que les carottes, que les panais, que le persil, etc. Ce qui est intéressant, c'est que son goût est un peu intermédiaire entre tous. C'est un goût vraiment, vraiment très, très fin.
Ça, c'est du Helianthus. Hein. Ça a le même goût. Vous voyez, il est plus facile à éplucher hein, que le topinambour. On appelle ça le salsifis d'Amérique.
Et ensuite, on va enfourner ces frites de patates douces. Pendant combien de temps il va cuire ça?
Un truc que je peux vous donner lorsque c'est cuit, c'est que lorsque ça sent bon. Bon appétit et gênez-vous pas de travailler les légumes racines.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau d'On va déguster. On les appelle raves, racines, tubercules, ces cutéreux du potager. Alors évidemment, vous connaissez la carotte ou la pomme de terre, mais si je vous dis chervi, persil racine, helianthus, panais, alors là vous êtes un peu dans les choux. Bienvenue dans le monde mystérieux et souterrain de ces tubercules oubliés. Il y en a un qui les surnomme tubercule ridicule. Il nous expliquera pourquoi. C'est notre pote du potager, Xavier Mathias. Bonjour.
Bonjour.
Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu au plateau, au micro de On va déguster. On est ravis de vous retrouver.
Ben c'est un plaisir, j'étais en dormance moi aussi.
Vous étiez en dormance, c'est ça, c'est l'hiver, vous êtes notre consultant officiel en matière de légumes, Xavier, maraîcher bio, formateur en technique potagère, en permaculture, auteur de nombreux ouvrages, enseignant à l'école du Breuil, vous avez énormément de casquettes et vous nous avez apporté une bien belle récolte. Il y en a vraiment partout.
Et oui, et pour tous les goûts.
Et des racines souvent non identifiées, en tout cas par nous. Vous les connaissez par cœur et vous allez même nous les présenter.
Avec plaisir.
Ces racines, on va les cuisiner avec Franck Baranger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef, Franck, le cerveau culinaire de Pantruche et Caillebotte, deux fameux bistrots du quartier Pigalle à Paris, à la bien belle réputation. Vous y travaillez, notamment des tubercules, vous allez nous l'expliquer. Et vous vous éclatez hein, vraiment en cuisine, même avec, même en dessert.
Oui, tout à fait. On essaye de les travailler de façon assez rigolote pour les clients. Et puis, c'est aussi sympa pour nous de faire des choses un petit peu plus rigolotes pour que les gens s'éclatent avec.
C'est ça, recette à base de patates douces par exemple, un petit dessert
aujourd'hui, ouais.
Très
patates
bien.
Douces, ouais.
Vous allez patates nous faire goûter ça en direct dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui. Estherel Payani et Arnaud Daguin. Bonjour les amis.
Bonjour.
Estherel.
Aujourd'hui, au programme, je vais vous tirer les tarots, mais pas ceux de Marseille.
Tarot, ok. Arnaud,
un coup de déclame aujourd'hui.
Le coup de lame qui se transforme en coup de déclame, oui, vous allez voir. Bien belle prouesse poétique. Réagissez dans notre émission en direct via l'appli de France Inter ou en nous envoyant un mail sur notre adresse onvadéguster@radiofrance.com. L'émission est réalisée en direct par Laurane Thomas avec Alexandre Chenet, Nadia Chougui à la préparation. Pour consulter nos recettes, nos infos pratiques, le podcast de l'émission, le chemin est tout tracé. Franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de déterrer nos légumes racines, je vous rapporte un souvenir de Haute-Savoie où j'ai eu la chance de partir quelques jours cette semaine. Est-ce que vous aimez, les amis, la raclette?
Oh, on adore,
bah oui. Avec des bonnes pommes de terre, ouais.
Voilà, il faut pas oublier évidemment saison, les tubercules.
En cette saison plutôt qu'au mois d'août.
Exactement, c'est le vrai plat hivernal, vous avez raison Arnaud, familial aussi, les enfants en général aiment bien. Ben, je vous rapporte une raclette de compète de la ferme de Cérosset. Il y a un X à la fin, mais on va éviter de dire Cérosex.
Ça serait dommage.
C'est pas parce que Cérosex, ça fait un peu X.
Ça fait surtout privatif.
Mais, bon. Mais c'est surtout que c'est comme Chamonix, on dit pas Chamonix, hein, c'est pareil, on est à Haute-Savoie. Donc c'est la ferme de Cérosset et elle est située à 1700 mètres d'altitude vers Morzy, Navorias, pas loin de la frontière suisse. On est en Haute-Savoie, ce sont 300 hectares d'alpage dans le massif du Chablais et 50 hectares de fauches pour faire les foins entièrement naturels, ce qui permet à la ferme d'être autonome à 80% pour le fourrage de leurs vaches. Et les vaches, il y en a 50, dont 45 Abondance, la fameuse race locale. Et ces vaches, figurez-vous, s'éclatent sur le domaine skiable des Portes du Soleil. Non, elles ne se sont pas encore mises au ski. Mais en revanche, l'été, ces vaches, elles entretiennent les pistes d'Avoriaz. Oui, elles permettent de faire de belles pistes juste avant la tombée de la neige, en fait. Et c'est avec ce lait de montagne, ce très beau lait de montagne, que la ferme de Serrosset fabrique notamment de la raclette. Imaginez le goût d'une raclette au lait cru, de vache abondance, nourrie avec de l'herbe ou du foin de montagne. Une raclette affinée 2 à 3 mois, je l'ai goûtée, fondue dans un chalet d'Avoriaz, texture souple et crémeuse, pas du tout huileuse, un vrai goût bien profond, sapide, à la fois rustique, même floral, très délicat, une très belle longueur en bouche. Non, la raclette, ce n'est pas que du plastique alimentaire bourré de coagulants, de colorants, de conservateurs de surface qu'on trouve, vous savez, pré-tranchés au rayon frais des supermarchés, Arnaud.
Au rayon des fromages analogues.
Oui, oui, exactement. Ça peut être aussi un vrai fromage de montagne, authentique, naturel, délicieux et en plus assez bon marché. Les trois associés de la ferme de Serrosset, Sébastien Gomery, Gilles Ruland et Pierre-Marie Tessèdre, tiennent vraiment à vendre leur raclette localement. Tant pis pour les Parisiens, c'est eux qui doivent se déplacer. On achète cette raclette en direct à la ferme près de Morzine au prix de 14 euros le kilo, ce qui est un prix franchement super honnête. Et dans certains restaurants de la région comme les Tables, l'Épicerie ou la Réserve à Avoriaz 1800, la fameuse station de sport d'hiver qui va bientôt être prise d'assaut. La ferme de Serrosset tout près de Morzine sur la route d'Avoria. Et non pas Avoriaz. Et puis je vous signale un événement qu'on aime beaucoup et qu'on défend depuis ses débuts dans l'émission On va déguster, c'est la Paris Cocktail Week, dont la 5e édition se déroulera dans la capitale à partir de vendredi prochain, le 18 janvier et jusqu'au 26 janvier. Ce sont des brunchs, des démonstrations, des dégustations dans 50 bars parisiens. Et c'est une occasion de 1. Pousser un cocorico, les lieux de cocktail et les bartenders français sont plus que jamais inspirés et inspirants, reconnus même sur la scène cocktail mondiale. Et 2, c'est l'occasion de montrer aussi que le métier se féminise, Estherelle.
Et oui, il y a quand même un tiers des bartenders qui sont des femmes. Et notamment, on pense à Margot Le Carpentier de Combat avec ses deux autres acolytes.
Oh là là, ouais.
63 rue de Belleville, dans le 20e, qui fait shaker au féminin de sacrés cocktails. Mm-hmm. Notamment des cocktails sans alcool qui sont mis en avant cette année par la Paris Cocktail Week pour dire qu'on peut shaker sans abuser.
Ouais, les cocktails sans alcool qu'on appelle mocktail, du verbe anglais to mock, imiter. Mocktail, c'est un cocktail sans alcool. Et on peut voir avec cette 5e édition de la Paris Cocktail Week que ce n'est plus une punition, mais un passionnant terrain de jeu, une très belle gastronomie liquide. Paris Cocktail Week du 18 au 26 janvier. On vous a mis toutes les infos sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. On vous fait déguster justement les légumes racines oubliés juste après. Can't Fight the Feeling, une chanson posthume de Charles Bradley. C'est un ambassadeur de la soul music, disparu en novembre 2017. Un titre choisi par Djoubacar. On est bien et on a faim sur France Inter. Oh
Let's work it.
Le plateau dont on va déguster se transforme littéralement en potager grâce à notre pote du potager. Oui, c'est Xavier Mathias. Quel étalage légumier incroyable. Qu'appelez-vous exactement, Xavier ? Les tubercules ridicules, elle est à vous cette expression.
Oui, alors c'est un jeu de mots un petit peu simple. Néanmoins, ça nous rappelle quand même que les tubercules, les parties tubérisées, les parties souterraines, ont toujours été énormément déconsidérées. Hein. Un aristocrate, par exemple, il mange rien qui vient de sous terre. Il mange que l'aérien. Son blason est bleu, hein, d'ailleurs. Hein. Il n'est pas couleur brune. Et c'est la couleur brune qu'il nourrit hein, normalement. Hein. Donc, mais il y a aussi cette idée que dans la pyramide des êtres, l'enfer est sous terre. Donc, aller sous terre, c'est aussi s'éloigner de Dieu, hein, c'est s'éloigner du divin. Donc, on va chercher à monter, se mettre aussi un petit peu dans une représentation de ce qu'était une rue, il y a quelques siècles, hein, où les cochons fouissaient dans la rue. Donc, pour un aristocrate, c'est le cochon qui cherche sous terre. D'ailleurs, dans un fabliau, il est dit à un moment à propos du panais qu'une truie préfère un panais à un marc d'argent. Voilà, vraiment, ils sont très très mal considérés.
Donc on s'orientait dans les tables aristocratiques plutôt du côté des produits aériens, des fruits.
Voilà, c'est ça.
On a du gibier à plumes.
Voilà, c'est ça. On a la reine Claude, par exemple, mais on a très peu de panais qui portent des noms royaux.
Alors, vous évoquez ce panais, d'ailleurs, pardon, Xavier Mathias, mais en préparant cette émission, il y a décidément des expressions assez peu reluisantes concernant le panais, notamment par rapport à.
Il y a Gauthier Leleu dans un fabliau du 13e qui dit, donc fabliau destiné vraiment là au grand public entre guillemets, et qui nous dit que votre haleine n'est pas plaisante, elle est plus puante et plus sale qu'un pet de panais. Donc voilà, c'était quand même assez peu apprécié.
Il faut pas oublier que ce sont quand même ces tubercules, ils sont champions du monde des gazogènes, hein, donc voilà, c'est vrai que le méthane produit.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette question-là aussi, cette mauvaise réputation des légumes racines qui auraient, on va dire, pour parler très poliment, une vertu carminative.
Carminative, voilà.
Bon, autrement dit, ils font péter.
Ouais, c'est ça, clairement.
Pourquoi ?
Certains sont un peu champions de la concentration d'inuline. Moi, je pense
inuline.
Inuline, donc un sucre en fait, hein, que notre estomac n'a pas les enzymes pour digérer. C'est pour ça que ça se passe aussi mal, de façon catastrophique parfois, avec le topinambour ou les lentilles, son cousin.
Ah, ça, c'est champion du monde de la teneur en inuline, c'est topinambour et liantis, ouais. Avec cette fameuse substance qui, effectivement, pourrait provoquer des flatulences.
Juste une nuance là-dessus, vous savez bien que rien ne va jamais tout seul, et c'est en fait le rapport entre ces produits-là, issus de ces légumes, et notre propre microbiote qui fait que, hein, on est en train de le vivre avec les vaches aujourd'hui, qui ont été accusées, et qui le sont toujours, on est en train de s'apercevoir que si on les fait bouffer comme il faut, en fait, elles sont pas si émettrices que ça de ce méthane létal. Donc, attention, c'est toujours à deux que ça se passe, hein. On n'est jamais seul dans ces actions-là. Le produit lui-même ne peut pas être incriminé tout seul. Voilà.
Xavier Mathias, dites-moi.
Oui, alors effectivement, quand ça concentre beaucoup d'inuline, comme les lentilles ou le topinambour, on va avoir du mal à digérer. Par contre, quand il y en a moins, et qu'on en mange en quantité raisonnable, et qu'on en remange, surtout progressivement, hein, le temps justement que le macrobiote se réhabitue, il y en a un peu dans le panais, il y en a un petit peu dans la poire de terre, alors sans vouloir rentrer dans les détails, moi j'ai aucun souci de digestion du panais ou de la poire de terre, mais parce que j'ai une alimentation en hiver qui réintroduit
tranquillement. Voilà. Vous habituez votre organisme.
Voilà, juste un petit truc à propos du topinambour et des lentilles, savoir que l'inuline se concentre quand même à l'air. Hein. Mm-hmm. Donc, un truc pour bien la digérer, il y a plein d'astuces, bicarbonate de soude, sauge et tout. Le truc le plus efficace quand même, c'est de les manger le plus vite possible, ne pas les stocker et surtout pas les réchauffer.
Topinambour et lentilles. On reste un instant sur ces deux légumes. On sait qu'ils sont parmi vos chouchous, Franck Baranger, cuisinier.
Ouais, exact.
Donc, Pantruche, Caillebotte, j'avais oublié aussi de citer une troisième maison très importante concentrée sur les saveurs marines, rue de Navarre, Paris 9e, c'est
Belle Maison.
Belle Maison. Vous avez une très belle définition pour Eliantis, ce cousin du topinambour.
Enfin, c'est une expression que nous, on a en cuisine, on appelle ça le topinambour du feignant.
Pourquoi ?
C'est juste un petit peu facile à éplucher. Bah, d'ailleurs, on voit sur le plateau, voilà. Je préfère éplucher... l'Eliantis que le topinambour.
Il est plus régulier, moins bosselé, évidemment, que le... Alors, c'est vrai qu'il est un peu bosselé et torturé, le topinambour. Ouais. Et l'Eliantis, pour le coup, est plus allongé, plus oblong, et surtout plus régulier, donc plus facile à éplucher pour un cuisinier.
Plus facile à éplucher. Alors, nous, voilà, ça dépend ce qu'on veut en faire, mais si on a besoin de les éplucher, évidemment, on va se tourner vers l'Eliantis, mais bon, on va pas non plus mettre de côté le topinambour. Donc, le topinambour, nous, maintenant, on a pris l'habitude de le rôtir. Donc, on le lave et on le frotte à l'eau tiède. et on sans sèche bien
la peau.
Et voilà, exactement, on n'enlève pas la peau et on le rôtit tout simplement avec ce qu'on veut, quoi. Ça peut être des épices, on peut mettre des herbes.
Quand vous dites rôtir, c'est dans un sautoir ou c'est dans un four?
Alors c'est le sautoir au four.
Alors expliquez.
Les deux.
Nous on utilise c'est des sautoirs, donc nous on utilise des casseroles qui vont au four.
Mm-hmm.
On les démarre avec un corps gras souvent, avec le beurre, nous on aime bien.
Ouais.
Il mousse, on met les topinambours, on les roule dedans avec une garniture aromatique qu'on a envie d'utiliser.
Ouais.
Et une fois que ça mousse bien et qu'on sent que la chose est lancée, que la casserole est vivante, on l'enfourne.
Très bien. Comment vous définiriez la différence gustative entre, bon, on est dans une proximité quand même aromatique entre le topinambour et les lentilles. On peut dire souvent, d'ailleurs, ça explique ce nom anglais de Jerusalem artichoke. Mais c'est vrai que on retrouve le goût de l'artichaut.
Ouais, complètement. Alors, on peut faire la différence. Hein. On peut faire la, oui. On peut se rendre compte de la différence, mais si on vous le dit pas, honnêtement, mm-hmm. et que vous êtes en train de déguster un plat et qu'il a pas été énoncé, je pense que vous pouvez vous tromper.
On peut faire la confusion.
Mais il y a quand même...
Oui, ouais. La ligne Franck. Moyenne, c'est qu'il y a moins d'anisé chez les lentilles. Il est un tout petit peu plus rond pour moi. Mm-hmm. Donc, il a moins cette justification du nom de Jérusalem artichoke. Parce que justement, il n'y a pas ce côté... Enfin, moins ce côté artichoke.
Exactement. C'est ça.
Sur les lentilles que sur le topinambour.
Estérelle.
L'inuline dont on parlait tant, quand même, c'est un sucre. Donc ça se transforme, ça a un effet sucré. Et c'est ça qui est le fond de tous ces légumes ont en commun. Ils ont tous un goût relativement sucré. Il paraît que ça serait lié à l'inuline.
Oui, alors ils ont un autre point commun aussi qui est important de signaler. C'est que, on parle de tubercule, ce qui serait d'ailleurs un mot plus juste que racine. Hein,
parce
que botaniquement, on ne mange pas de racine.
Alors, important, faisons ce petit point botanique. Car il y a un quiproquo, une confusion entre toute cette sémantique tubéreux, tubercule, racine, etc. Bon, tubercule est à peu près synonyme de racine.
Alors, les tubercules, ce sont des épaississements d'organes. Alors que ce soit une racine, que ce soit un axe hypocotylé, donc entre les cotylédons et la tige, ou la racine justement. Mais en fait, on mange pas de racine. Il y a une seule racine botanique qu'on mange, c'est la patate douce.
Dont on va parler dans un instant.
Voilà. Le reste, ce sont pas des renflements de racines où il peut y avoir une partie de la racine. Alors c'est important cette
nuance. Donc c'est plutôt des renflements de tiges en quelque sorte.
De tiges souterraines, de rhizomes, pour les pommes de terre par exemple. Quand on mange une pomme de terre, on mange pas une racine, on mange un renflement de tiges souterraines. Et alors, ce qui est très important, ce sont des organes de dormance, donc destinés à assurer la réserve, à stocker la réserve de la plante pour qu'elle puisse redémarrer au printemps. C'est une réserve qui est riche en glucides et donc qui tombe très bien pour nous en hiver, en fait.
Fabuleuse source nourricière.
On n'a pas besoin de
vivant.
Voilà, on n'a pas besoin de manger de tomates en hiver, c'est pas ce qu'on veut. Et par contre, on a besoin de choses qui vont être plus roboratives, qui vont un peu mieux tenir. Et il y a ces organes de réserve des plantes qu'elle nous offre en fait assez généreusement quand même.
Ce qui explique Xavier Mathias leur fort pouvoir de leur forte durée de vie et leur fort pouvoir de conservation.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça explique vraiment deux choses essentielles. La première, c'est que ça nous nourrit, ce qui est quand même important.
Et en hiver, à une saison où il est compliqué, peut-être plus compliqué dans l'esprit des gens de se nourrir.
Voilà. Et la deuxième, vous voyez tous les légumes que j'ai apportés là pour cette émission. J'ai pas de chambre froide moi. Hein. Voilà, ils sont juste conservés en cave, hein. Pas plus que ça. Donc il y a aussi ça, cet organe de réserve en dormance, mm-hmm. il est fait pour ça, il est fait pour être stocké. Une carotte, quand elle est prête, ou une pomme de terre, et que vous l'arrachez, que vous la remettez en cave, elle s'en est pas rendu compte, elle est en dormance.
Mm-hmm.
Et par contre, c'est pour ça qu'elle peut se garder aussi facilement et aussi naturellement. Et c'est vraiment, il y a une famille immense de tous ces légumes souterrains dont il faut, à mon avis, vraiment, mais pour des questions nutritionnelles, pour nous, mais pour des questions écologiques aussi, hein, tout simplement, hein, qu'il va falloir vraiment remettre un petit peu en avant, à mon sens.
Cette formidable diversité qui est à notre disposition, ou presque, qui est un monde souterrain passionnant à découvrir. Donc, on les conserve facilement. Ce sont une formidable réserve nutritionnelle, notamment en hiver. Autre avantage, les légumes racines sont donc rustiques, beaucoup plus faciles à cultiver, peut-être moins gourmands en produits phytosanitaires que des légumes aériens ou des fruits comme la tomate, l'aubergine.
Alors, à l'origine, donc, on a réintroduit l'oca, la capucine tubéreuse.
Oca.
L'oca du Pérou, donc un joli petit tubercule qui ressemble à un... Ouais, un petit peu ridicule, il ressemble à un gros asticot bien grassouillé, mais il est quand même joli à sa façon.
Et tout rose.
Ouais, voilà, il y en a des, il y en a qui sont roses, d'autres qui sont jaunes. Et ils ont été réintroduits à la fin du 19e, suite à la maladie de la pomme de terre, où on avait des problèmes de mildiou, et il fallait trouver des plantes qui soient saine et résistante. Alors, malheureusement pour nous, hein, on a découvert les effets du cuivre et de la sélection pour lutter contre le mildiou, et on a laissé tomber complètement ces légumes-là. Merci les bio, au passage, hein, dans les années 90, qui ont redécouvert cette énorme diversité qu'il y avait et dont on a tous profité. Ce sont des plantes qui sont simples de culture, pas de maladies, pas de ravageurs et reproductibles à l'identique. Vous ne rachetez pas la semence d'une année sur l'autre et vous les adaptez à votre sol et votre climat progressivement. Donc c'est aussi pour ça que en bio, on a dès les années 90, on a vraiment bossé à fond dessus. On n'est pas dépendant d'une mécanisation en plus. On n'est pas comme quelqu'un qui a une arracheuse à carottes. Hein. Nous, on arrache tout à la bêche ou à la lame souleuse.
Et vous oubliez un avantage de Xavier Matas, formidable palette aromatique gustative à notre disposition. Ce sont des goûts, des formes, des couleurs tout à fait différents. Petite recette avec Franck Baranger sur un légume justement que la culture bio, l'univers de l'agriculture biologique a contribué à faire redécouvrir. Un petit mot, Xavier Matias, de cette racine de persil qu'on appelle de temps en temps persil racine, persil tubéreux. Ça a à voir évidemment avec la fameuse herbe aromatique que l'on connaît.
Oui. Alors c'est assez rigolo parce que Nicolas de Bonnefond, on remonte un peu dans le temps, on est en 1652, et Nicolas de Bonnefond, qui est le premier à écrire sur le potager, hein, dans le Jardinier français, il décrit le persil. Et il dit, tiens, en fait, vous pouvez aussi manger les feuilles. La racine est vachement bonne, mais vous pouvez aussi manger les feuilles. Et donc c'est étonnant de voir le parcours hein, d'une plante comme ça. Et donc le persil tubéreux, pour moi, c'est vraiment, vraiment une des racines les plus fines qu'on ait en hiver.
Vous en avez là ?
Oui, bien sûr.
Est-ce donc, que vous pourriez nous le décrire ?
Alors, pour
c'est vrai qu'on connaît l'herbe aromatique qui est vraiment à la mode depuis le grand siècle, depuis le XVIIe siècle, où il était très à la mode de condimenter la cuisine d'herbes fraîches, c'est là où apparaît l'estragon, le persil, etc. La racine a été oubliée, elle réapparaît heureusement avec ses goûts. Est-ce que... Alors, voilà, c'est ça.
Alors, pour ceux qui connaissent le panais, ça ressemble,
ça ressemble à
s'y méprendre à un panais. Ouais. La seule différence, il faut vraiment regarder au niveau du pédoncule. Le persil tubéreux, il est toujours en convexe.
Oui.
Et le panais est concave.
C'est
voilà,
ça.
Mais il faut vraiment ça pour se repérer. Hein. C'est pas si simple. Alors, moi, c'est vraiment un de mes légumes racines préférés en hiver. Parce que je trouve qu'il associe toutes les finesses des autres. Voilà, à lui tout seul. Il est moins suave, moins sucré que le panais. Il est moins tranchant que le céleri rave. Mais il a quand même ce petit côté, hein, ombellifère qui est là, il est vraiment idéal.
Et ben vous savez quoi, Xavier, Franck Baranger vous fait une surprise puisque vous allez justement le déguster sous quelle forme, Franck, ce fameux persil racine.
On a fait une soupe de racines de persil.
Ouais.
Donc on a essayé de la travailler de plusieurs façons. Donc on a, alors là, elle manque un tout petit peu de chaleur, donc elle s'est un petit peu épaissie, parce qu'elle s'épaissit donc en
perdant en refroidissant, chaleur, mais en tout refroidissant. Va bien.
Donc une crème de racines de persil, assez classique. Hein.
Enfin, c'est classique. Allez-y, comment on fait ?
On fait suer un petit peu les légumes.
Oui.
On
500 grammes de racines de persil à peu près. Hein,
ouais, voilà.
Pour 1,5 litre d'eau.
Exactement, trois fois. Et ensuite on verse dessus un liquide, alors de l'eau.
Oui.
Voilà. Ça peut être aussi un bouillon de poule.
Très bien.
Voilà, ce qu'on veut, un consommé. Et ensuite, on fait cuire tout doucement. On fait attention de ne pas faire trop réduire le liquide pendant la cuisson. Et nous, en fait, on l'agrémente avec... on connaît tous le céleri rémoulade.
Vous avez oublié la crème ou c'est moi qui ai les oreilles mouchées?
Ouais.
Non.
La crème est là.
Non, mais je parle de crème fraîche dans le velouté.
Ah ouais, si, bien sûr. Ah, je l'ai pas dit.
Non, si.
Pardon. Alors c'est très important. Exactement. Alors on fait cuire, on met de la crème. En fait, quand le légume est cuit, 5 minutes. Voilà, le légume est cuit, on rajoute la crème, on fait bouillir 5 minutes, on mixe. et vous avez votre soupe, quoi.
Réaction.
C'est absolument délicieux.
Non, c'est
absolument délicieux.
Tant en texture qu'en goût, Xavier.
Ah oui, il y a tout dedans, là. Ah ouais. Et donc, on n'a vraiment pas le droit de dire que l'hiver est triste, hein, pour les légumes. C'est vraiment très bon.
Bien sûr, c'est vraiment. Non, vraiment, c'est délicieux. La recette est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster soupe. Mais il y a aussi une rémoulade. C'est ça qui est étonnant.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, effectivement, on peut en faire un velouté. Et la rémoulade de racines de persil, vous y prenez comment?
Alors on adapte un peu parce que bon, on connaît tous le céleri rémoulade. Nous, on voulait justement décliner la racine de persil dans cette entrée-là. Et alors c'est pas vraiment avec une base de mayonnaise parce qu'avec la soupe chaude, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus meilleur comme accord. Donc on met un petit peu de crème encore et de la moutarde. Mais après, on peut aussi jouer avec le réfort. Enfin voilà, tout on peut du moment où ça envoie un petit peu pour rehausser la soupe quoi.
Le persil racine est un peu cuit ou vraiment cru?
Il est blanchi à peine. En fait, on taille une julienne et on taille une julienne de la racine de persil et ensuite on la blanchit à peine 40 secondes histoire de garder bien du croquant et on assaisonne simplement avec un petit peu de crème, un peu de moutarde, sel, poivre, terminé. Et puis nous, on s'amuse aussi avec de l'huile de persil.
C'est ça qui est
voilà. Donc on décline vraiment toute la.
Alors là, l'huile de persil, pour le coup, on utilise la feuille. L'herbe.
Ouais, exactement.
Et comment on s'y prend pour une huile de persil?
Alors nous on a je crois que maintenant on a un mixeur qui chauffe. Mais après on peut le faire aussi sur un festival où on l'avait fait justement en chauffant l'huile au préalable si jamais le mixeur chauffe pas. Il faut essayer de chauffer l'huile à peu près à 60 degrés, on met à fond pendant 2 minutes. À fond et au bout de 2 minutes, on met en première vitesse et on laisse tourner encore 8 minutes, ce qui permet d'extraire la chlorophylle, les goûts et tout ça.
C'est ça.
Et ensuite si on peut, on passe au chinois à la passette, enfin comme on veut. Et on a une huile, on peut la garder assez longtemps.
On peut
faire ça avec pas mal d'herbes.
C'est le genre de prouesse qu'on peut déguster dans vos bistrots. Juste une petite question, Franck Barranger. Quand vous présentez une ardoise ou un menu à vos clients et que vous leur dites racines de persil, etc., est-ce qu'ils font des yeux écarquillés ou les gourmets commencent à s'habituer qu'il y a ce genre de tubercule qui existe?
Je pense que de plus en plus, quand même, les gens connaissent. Les gens étaient étonnés il y a encore pas si longtemps que ça mais 7-8 ans c'était peut-être un petit peu plus original. Maintenant les choses se mettent en place, les gens se renseignent de plus en plus intéressés par ce qu'ils mangent, ils veulent manger de plus en plus sainement, c'est quand même bien. Et il y a plein de petites épiceries qui ouvrent de plus en plus. Nous on a une super épicerie qui nous fournit justement en légumes de temps en temps qui s'appelle Humphreys, qui est rue Milton,
ouais,
qui est génial.
Humphreys, très belle épicerie.
Donc là, voilà, c'est génial. Et du coup, les gens ont accès un peu plus facilement à ces légumes-là, sont au courant, quoi.
C'est ça.
Mais ils sont bien au courant que Topinambour, rendez-vous galant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux.
Il est très important que ces légumes reviennent sur nos tables le plus vite et le plus fort possible, hein, pour toutes les raisons qu'a évoqué Xavier tout à l'heure. Hein. C'est quasiment une obligation aujourd'hui.
Et c'est le résultat du travail de potager, de maraîcher, curieux, militant, engagé pour une biodiversité. Et le résultat, c'est cette très belle diversité dans l'assiette. La recette de Franck Barranger en est une preuve vivante. Il avait la parole, il la garde. C'est le coup de l'âme d'Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Ô toi, Rutabaga, héros de nos gratins, ô toi, Topinambour, terreur des intestins, je vais en quelques vers compter votre destin. Pataticus, tragédie de racine, racine avec un S. Où êtes-vous passé, ô glorieux tubercule, qui nous avez nourris et des siècles durant, dans des potées épaisses où l'avoine flocule, dans des plats mijotés pendant des heures de rang? La gloire qui fut vôtre pendant des millénaires s'éteignit brusquement un funeste mardi, le jour où Parmentier et quelques militaires firent briller la patate à grands coups d'interdit. Cette migrante infâme arrivée en bateau ne se fit pas prier pour vous mettre au tombeau. Purée, frites, gratin, tout lui fut dévolu, des usages sans fin lui étant reconnus, Pataticus, enfin, écrasant les anciens, entra dans les cuisines et régna haut la main. Fin des formes étranges de tous les tubercules, fille du céleri rave et ses diverticules, adieu côté pointu du cerfeuil tubéreux. La rondeur s'imposa. En fûmes-nous heureux? Non, car je vous le dis, il serait ridicule de prétendre un jour nourrir l'humanité de ses seules rondeurs et sous ses monticules, en renonçant de fait à la diversité. Faire pousser des patates, c'est construire des buttes, puis bousiller les sols pour aller récolter. Ce n'est évidemment pas ainsi que l'on lutte pour préserver la vie et la fertilité. À vous, les jardiniers et maraîchers permacoles, de saisir le flambeau afin de nous sauver. Entre vos mains expertes, les savoirs agricoles feront renaître un jour la biodiversité. Saluons le retour de tous ces tubercules, saluons le retour de cette liberté. Soyons reconnaissants des efforts majuscules de tous ces paysans qui triment sans mouveter. Je vous le dis bien fort et prétends faire école. Nous toucherons un jour l'avenir radieux si, suivant le vivant, dans le monde agricole, humblement, nous cessons de nous prendre pour Dieu.
Ouf, ça vaut des applaudissements. Bravo, ouais. Bravo. Quelle prouesse! Et attendez, vous avez joué le jeu, hein? Parce que la forme de votre poème est vraiment respectée. On est sur l'alexandrin?
On est sur un alexandrin, mais c'est surtout... Il y a un truc qui m'avait touché, qui me touche encore quand je lis du Rostand, c'est le moment où le pâtissier dans Cyrano,
Ragnaud.
Voilà, hein, le moment où le pâtissier pond cette espèce de
comment
de,
on fait les tartelettes à la vanille,
absolument, et qui oscille entre le touchant et le ridicule, et aussi avec une emphase. Bon voilà, donc je voulais m'amuser à ça avec Agnès, ma chérie, on s'est amusé.
Oui, Agnès, on pense à elle. Merci beaucoup. Arnaud Daguin, dans un instant, on va parler chervis, cerfeuil tubéreux, il y en a quelques autres à découvrir. Mais on a aussi une question, Esther El Payani, sur un autre légume sur lequel Xavier pourrait nous renseigner.
Deux de nos auditrices attirent l'attention sur le crône. Alors, j'ai jamais su si on disait le crosne, hein, mais évidemment, c'est le crône. Alors, on a même Charlotte Payeux qui nous signale gentiment que ce petit tubercule au délicieux goût d'artichaut a été découvert par l'un de ses ancêtres, Auguste Payeux. Non. Au 19e siècle, donc elle nous écrit pour nous rafraîchir la mémoire.
Mais moi j'avais toujours cru que c'était un légume d'origine japonaise, non ?
Il est de Chine, et en fait c'est Augustin Payeux et Désiré Bois. Alors je serais ravi d'avoir les coordonnées de cette dame, j'admire énormément les travaux d'Augustin Payeux, qui a fait vraiment beaucoup, et je lisais hier soir d'ailleurs ses travaux, ça m'émeut, et donc ils ont ramené, effectivement c'est en 1882, hein, si ma mémoire est bonne, qu'ils réintroduisent donc dans le village de Crône, hein, le stachys affinis, ce qu'ils appellent Crône, c'est quand même plus joli, qu'un petit tubercule. Alors lui, voilà,
petit
tubercule,
hein.
Ridicule.
Tout délicat.
Voilà. Ouais, voilà.
Bosselé.
Bosselé. Alors,
comment on pourrait le décrire, c'est incroyable.
Comme une larve de cétoine, en fait.
C'est ça.
Pour ceux qui jardinent, ça fait... non, c'est très mignon.
Ça fait
un
gros
côté
chenille.
Mini bibendum, un petit peu.
C'est
assez rigolo.
Ça nous parle.
Et en fait, c'est un légume qui est croquant, qui est super agréable, qui est résistant à tout, qu'on a en hiver, qui est vivace, qui est rustique à plus de moins 20 degrés. Mm-hmm. Et puis, petite particularité que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps et qui est intéressante, il est aussi riche en protéines. Ce qui, à une époque où on veut manger moins carné, est intéressant. Donc, saveur très fine, très facile à préparer. On le brosse juste. Hein, on épluche beaucoup trop les légumes.
Pas besoin de le peler. Hein.
Non, je pense que
rien déjà.
Voilà, et puis je pense que l'économe pour les légumes pourrait être beaucoup plus rangé
que sorti, et la brosse vaut
la peine de revenir, je crois.
Absolument, et puis mangeons la peau des légumes, surtout quand ils ne sont pas traités, et vous l'avez croqué carrément cru, ces crônes, Esther El Payani, c'est vrai.
C'est le risque du métier.
C'est même croquant et juteux, hein, quand
c'est
cru.
J'aime bien les confire au vinaigre, comme des cornichons, parce qu'ils gardent tout leur croquant, et parce que j'ai un souvenir cauchemardesque des séances de cornichons quand j'étais gamin.
Et on les confie dans une saumure. En fait,
Oui. Ça garde le croquant. Après, il faut réussir. Moi, je cherche donc à ce que j'affine la saumure, qu'elle soit moins marquée que là ce que j'ai fait.
Plein d'autres légumes. Juste après, une très très belle chanson posthume, elle aussi, d'Alain Bachung, Les Salines. Il est 11h37 sur France Inter.
Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche sèche. Et je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent. Mais qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Il dit personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. J'étais mort au milieu du béton. Aujourd'hui, je ne rencontre qu'aux étoiles dans le ciel et j'implore le pardon. Il dit, je n'atteindrai pas le paradis. Mais Dieu sait que j'aurais essayé. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé.
Dimanche 13 janvier, nous sommes en direct, c'est l'émission On va déguster, l'émission gastronomique de France Inter. Nous sommes en compagnie de Xavier Mathias, expert en maraîchage, qui nous a apporté une collection invraisemblable de tubercules qu'il cultive dans ses terres, dans les écoles également où vous enseignez.
Oui.
Et Franck Baranger, le chef de Pantruge, Belle Maison, Caillebotte, tout ça se situe dans le 9e arrondissement de Paris et il cuisine beaucoup les tubercules. Les tubercules ridicules, un peu oubliés, on va en évoquer quelques autres. Quelques questions d'auditeurs, Estherelle, sur notre mail.
Alors, on a surtout des remarques sur les topinambours, en fait, qui ont un grand, grand succès, notamment sur les épluchages. On vous remercie de ne plus avoir les épluchés. Par contre, certains disent, est-ce qu'on les coupe avant de les faire au tir entier?
Ah oui, intéressant.
C'est la question de la taille. Ouais.
Ça dépend de la taille des topinambours, quoi. Le mieux, c'est quand même de trouver des petits topinambours. Pour justement ne pas avoir à les couper, c'est quand même mieux.
En fait, Arnaud Daguin nous aurait répondu entier, je le sais.
Enfin, oui et quand même en ajoutant que quand ils sont gros, on peut les fendre en deux, enfin, les couper en deux, les mettre côté peau en dessous pour faire dorer la face supérieure, même sans gras. Et on peut même s'amuser à les manger à la cuillère ensuite là-dedans.
C'est, ouais, t'as fait.
Et c'est très très bon. Oui.
On essayait un peu comme les pommes de terre dans l'aluminium.
C'est exactement ça.
La cuisine est un terrain de jeu infini, évidemment. Évoquons deux autres légumes qui sont aussi oubliés, mais qui ont un statut un peu particulier. Quand vous évoquiez le destin malheureux de ces légumes sur les tables monarchiques, les tables royales, au XVIIe, etc., il y avait une exception pour deux tubercules qui avaient, on va dire, un traitement de faveur.
Oui, oui, ils sont deux à avoir été relevés. Il y en a un qui a quasiment disparu maintenant, c'est le chervi.
Donc, qui connaissait honnêtement le chervi, à part évidemment Arnaud Daguin, les cuisiniers, chervi franchement.
Voilà, il a quasiment disparu au 17e en fait. Alors c'est dommage.
On a vu la gueule qu'il a, ça ne m'étonne pas, oui.
Ah voilà, on dirait des dreadlocks mais en blanc.
C'est
voilà,
ça, c'est des dreadlocks. Ça fait... non, mais c'est surtout que c'est pas très facile à manger.
Alors un poulpe aussi.
Oui, corée séchée. Et donc l'idée c'est que, alors là encore, on brosse, on n'épluche pas. Il y a juste un piège, c'est qu'il y a une mèche dure à l'intérieur. Il faut fendre en deux ces petites racines pour ôter la mèche. Après, c'est vraiment très bon. Vous roulez, donc la recette ancienne, hein, c'est de rouler dans un mélange d'œufs et de farine, tout simplement, et de frire. Et là, c'est vraiment très, très très bon, génial. Très fin. Un peu de temps à préparer, mais vraiment, ça vaut la peine pour un repas d'exception, moi je trouve.
Quel goût ça a ? Parce que c'est de la famille des zombellifères. Alors je sais qu'on dit plutôt apiacé maintenant, mais en gros, pour faire très court, le chervier est un cousin de la carotte. Hein.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, mais on va alors, il a un peu pris à tous. Il a un peu, il va ramener justement sur l'idée du persil tubéreux. Il va avoir un peu le sucre du panais. Il va y avoir le côté un peu céleri rave aussi, avec quand même dedans une nuance de piquant. Hein. Oui. Il est légèrement piquant hein, quand même, notre chervie. À la différence de son autre comparse qui lui s'est fait un peu rayer des listes à une époque, et puis qui revient maintenant, et c'est normal, ça a tombé par terre ce truc, c'est le cerfeuil tubéreux.
Oh là là, et il est tout mignon en plus. Ah, ouais, vous nous le décrivez
voilà. Une petite toupie, on peut dire comme ça. On
a blanchâtre, envie... le côté pointu. Voilà.
Ouais, oui, c'est ça. On a envie de le croquer rien qu'à le voir. Quoi.
Ah, c'est un bonbon.
En fait, oui, c'est un bonbon. Ah ouais, vraiment. Ouais.
En goût, ça donne quoi, Franck Barranger?
C'est assez sucré.
Même. Ouais, c'est très doux, assez sucré. Il faut se méfier quand on fait des purées ou des choses comme ça, ouais. Parce que il peut très vite marcher sur la tête des autres, hein, celui-ci, là, avec son air de pas y toucher.
Il a un petit goût aussi de châtaigne, hein, pourrait-on dire. Il est même assez sucré.
Alors moi, je le rapproche de la châtaigne avec... une texture plus agréable. Oui. Je trouve que la châtaigne, ça farine moins, c'est beaucoup plus tendre. Alors c'est une petite merveille, hein, ce truc-là.
Quelle famille ?
Alors pareil, ombellifère hein, quand même. Hein. On les retrouve assez souvent, un petit peu décalé au niveau de la culture, il est un petit peu compliqué. Et pour les gens qui s'étonneraient de son prix, voilà. Je vous prie de me croire, c'est un enfer à produire ce truc-là. C'est un enfer.
Parce qu'on a des réactions justement voilà. D'auditeurs. Vous ne croyez pas si bien dire Xavier Mathias. C'est très beau cette belle diversité qui s'étale sur nos étals justement, et notamment des maraîchers bio à Paris, en région. On trouve désormais des légumes qu'on ne connaissait pas il y a encore 10 ans ou qu'on avait oubliés. Le petit problème dans l'histoire, c'est qu'effectivement, il coûte un peu plus cher que le traditionnel kilo de carottes ou de pommes de terre. Et ça, c'est lié, vous dites, au travail, au coût de la main-d'œuvre, aux efforts que font les maraîchers.
Alors, parfois, ça peut être technique. Hein. Donc, effectivement, le cerfeuil tubéreux, c'est techniquement très compliqué à faire. C'est lié au fait de l'absence de mécanisation qui existe pour tout ça. Et puis, alors là, je suis désolé, je vais montrer un petit peu sévère. C'est aussi lié au fait que, on a du mal à accepter de dépenser pour se nourrir bien. Et moi j'invite, je voudrais pas paraître brutal, mais j'invite quand même ceux qui font des réflexions sur les prix à venir voir comment on vit, à venir voir comment vivent les maraîchers dans leurs fermes, et à regarder aussi, c'est tout bête, à regarder sur les marchés les camions. Et vous allez voir que le plus pourri, c'est celui du maraîcher. Hein.
Mais évidemment, et c'est la grande distribution, on va pas aborder le débat, mais qui nous a habitués justement à des prix cassés, mais qui en général ne sont pas le reflet d'un salaire ou pour un travail et des efforts, un salaire décent pour le producteur évidemment à l'autre bout de la chaîne. On va évoquer aussi des tubercules exotiques. Alors, il y a les assiettes de Franck Barranger qui sont en train de se préparer à base de patates douces. On va peut-être évoquer aussi des tubercules très originaux et très jolis, très exotiques qui nous viennent du Pérou. Mais pour l'instant, c'est une autre racine que nous évoque Estherelle Payani.
On va déguster sur France Inter.
Je disais, un spécimen plus exotique au nom varié.
Si je vous dis Madère, Chouchine, Dachine, Arouille, Macabo...
Ah c'est ça, c'est des insultes du capitaine Haddock.
Perdu ! Plus joli encore, je vous propose de rêver autour de ce tubercule tropical.
Oui.
Le songe d'une nuit d'hiver peut-être, puisqu'à La Réunion et dans d'autres îles, on le nomme joliment songe.
C'est joli.
Un nom qui fait rêver. Mais ici, on l'appelle plus simplement Taro, T-A-R-O, tout simplement, qu'on trouve aussi sous le nom de Edo.
E 2DO. Sur la table, je vois un gros tubercule, alors ça doit faire quand même un bon gros kilo. Il y en a aussi des tout petits. Est-ce que ce sont des taros tous les deux ?
Oui, ils font bien partie de la même famille, celle des aracées, qui contient également le philodendron de votre salon et les arômes du fleuriste. Sous ce nom, d'ailleurs, on regroupe plus de 70 variétés, et celle qu'on trouve le plus en France, c'est les taros de type Colocasia esculenta.
À vos souhaits.
Ce taro serait originaire de la région indo-birmane, et il se serait diffusé d'abord en Océanie. Quand le capitaine Cook se rend à Hawaï, il goûte un aliment de base, qui subsiste toujours d'ailleurs avec le poi, une sorte de pâte de taro fermentée et crémeuse qui devient comme une soupe violette. C'est l'un des 10 trucs d'ailleurs que j'aimerais goûter avant de mourir.
Moi aussi, figurez-vous.
On ira ensemble alors. Le taro, après, a continué sa route en quittant l'Océanie, s'est fait adopter en Chine et au Japon. Il est arrivé jusque chez les Romains avec Apicius, qui en propose plusieurs recettes. Même les pharaons l'ont mis au menu. Il a fait son bonhomme de chemin partout où il trouvait de la chaleur et beaucoup d'humidité, même des champs inondés un peu comme le riz. Les Malais, ce sont eux qui l'ont introduit à Madagascar, où la colocasia se retrouve baptisée Sonjo, d'un mot arabo-persan signifiant « noir », comme son enveloppe extérieure.
C'est vrai qu'il est noir.
Le songe n'est donc pas un rêve, mais tout simplement une couleur. Avec la traite des esclaves, le tarot s'est ensuite répandu en Amérique, où il gagne son nom de Edo, qui le fait souvent confondre avec l'igname. À Maurice et à La Réunion, on dit songe ou arouille, aux Antilles d'Achine, Madère et Chou de Chine, ce qui n'aide pas à tirer le tarot au clair. C'est un végétal sacrément polymorphe et il y a même des tarots géants qui montrent que les botanistes ont beaucoup d'humour.
Mais ça, on n'en a jamais douté. Hein.
Alors voilà une preuve de plus.
Ils ont l'imagination.
Avez-vous déjà entendu parler du songe pâté de La Réunion ?
Le songe pâté de La Réunion, Xavier Mathias, non ?
Ce sont d'énormes tarots pesant jusqu'à 8 kilos. Leur fleur émet une odeur pestilentielle de chair en décomposition pour attirer les insectes, et d'ailleurs, ça n'a aucun impact sur le goût du tubercule, qui porte le remarquable nom de Amorphophallus paeonifolius, parlé d'un légume nommé donc pénis informe. Je n'aurais jamais cru en parler un jour sur le service public, même face à Yann Moix.
Ils ont quand même quelques atouts culinaires, enfin, je parle des tarots, peut-être, enfin, Yann Moix, c'est moins sûr.
Bon, déjà, leur couleur.
Oui.
À la cuisson, c'est la loterie, le tarot. C'est blanc, cru, et puis à la cuisson, ça devient violet, orangé ou un peu gris. On sait jamais ce qui va se passer. Au goût, c'est pas trop racinaire, un peu sucré, ça évoque de loin la châtaigne ou la patate douce violette. Son vrai atout, c'est sa texture, qui peut jouer sur le gluant et le fondant, et qui devient subtilement croustillant quand il est frit. À l'île Maurice, on fait des boulettes d'arouille, du tarot râpé assaisonné de gingembre frit en petites boulettes croustillantes.
Ça doit être bon, ça.
Et il y a aussi le wugok dans les dim sum cantonais. Ça, c'est mon dim sum préféré. Des boulettes oblongues forées d'une farce au porc et aux champignons qui ressemblent un peu à la dentelle quand c'est frit. Ça me rend
Goûté ça, figurez-vous. Bon, comment on le prépare, ce fameux tarot à la maison?
Alors déjà, avec quelques précautions. Mieux vaut mettre des gants, comme pour les piments. Mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'il produit une sorte de jus gluant.
Ah.
Quand on épluche les salsifis en plus collant. Certains préconisent de les cuire dans une première eau, puis de la jeter, et de continuer la cuisson dans une nouvelle eau, ou dans la sauce. C'est d'ailleurs ce que m'a conseillé le vendeur de la rue du Faubourg Saint-Denis, où je suis allée les acheter, qui fait ça avant de les faire mijoter dans un curry. Mmh. Surtout, on ne les mange pas crus, à cause de leur richesse naturelle en oxalate de calcium. Et puis, avec, on fait tout ce qu'on fait avec de la patate. Hein. Tout le monde déplaise à Arnaud, ça sera tout simplement la meilleure manière de faire. Pour faire de doux rêves quand même, je vous ai préparé un gâteau songe à la mode de l'île de La Réunion. Tout simple et tout moelleux.
Le gâteau songe, c'est mignon. Moi, je m'en prends une part.
Alors,
ça ressemble un peu à un flan avec... Oh là,
ça a un côté très flan, tout simplement. C'est 500 grammes de purée de tarot réduit en purée. Puis c'est tout tendre, hein, donc au presse-purée.
C'est vanillé. Hein.
C'est très vanillé, vous allez voir pourquoi. On mélange tout avec 80 grammes de sucre roux, 60 grammes de farine, 4 œufs, 120 grammes de beurre fondu. Donc c'est vraiment tout simple à faire. Et on met plus ou moins généreusement du rhum à la vanille.
Non mais attendez, pour moi c'est, bon. Peut-être ça alors, le côté galette des rois, goût d'amande et tout. En fait c'est le rhum.
C'est beaucoup de rhum,
oui,
en fait.
Ça.
Le vrai secret de ce gâteau, c'est beaucoup de rhum.
C'est délicieux, c'est fondant.
Et 45 minutes à 180 degrés. Voilà.
Le gâteau songe, il en pense quoi, Xavier Mathias? C'est nourrissant, non?
Moi, j'adore retrouver des légumes et des légumes souterrains, particulièrement en dessert, parce que s'il y a un endroit où on les attend pas, c'est bien là. Et je trouve ça génial.
Eh ben, vous allez être servi dans un instant avec Franck Baranger, qui nous a préparé un magnifique dessert à base de patates douces. Merci beaucoup, Estherelle. Merci de nous avoir tiré ce tarot au clair. Ça nous plaît beaucoup. Citons quelques racines ou tubercules exotiques, Xavier Mathias, car il nous en vient beaucoup, il nous en est venu beaucoup du Pérou notamment.
Ah oui, ça c'était une grosse vague. Justement, on parlait de Monsieur Payeux tout à l'heure, et donc il a fait un énorme travail dessus. Et donc on a l'oca du Pérou, la capucine tubéreuse aussi. Alors capucine tubéreuse, pour ceux qui ont mangé de la feuille ou de la fleur de capucine, vous avez vu son côté poivré.
Un peu comme le cresson.
Voilà,
ou
c'est
la
ça.
Roquette sauvage.
Oui. D'ailleurs, on l'appelait grand cresson d'Inde, hein, la capucine. Vous allez retrouver ce côté poivré aussi dans le tubercule cru et qui va perdre à la cuisson. Pour moi, c'est avec le cerfeuil tubéreux, c'est un de mes préférés.
Vous l'avez là ?
Oui, bien sûr. Alors, il y en a plusieurs.
Il y en a tellement
styles, voilà.
Oh, c'est joli. C'est vraiment d'un jaune assez vif.
Voilà, ça c'est la variété canaslette. Mais on a aussi des jolies blanches qui se promènent sur la table.
Tubéreuse, est-ce que vous les cuisinez, Franck Baranger ?
Nous, on utilise rarement l'oca,
oui.
Même si j'aime beaucoup. C'est vraiment, enfin, il y a un moment où on a son style de cuisine, ça nous arrive de les utiliser.
Mm-hmm.
La capucine tubéreuse, un petit peu plus, mais crue.
Oui.
Parce que justement, on essaye de garder ce goût piquant qui peut venir relever un poisson cru. Voilà,
absolument.
Ça peut être délicieux à la mandoline.
Mm-hmm.
On discutait de mandoline avec Xavier, mais c'est vraiment c'est génial pour ces petits légumes-là. Et voilà, pas épluché, juste passé à la mandoline.
C'est ça, cru, donc c'est voilà. Croquant.
Parce que quand on le fait cuire, il perd son côté piquant.
Presque un peu juteux. De quoi s'agit-il?
Ah bah voilà, la fameuse capucine tubéreuse. Ah bah voilà. Donc voilà, quand la on voici. La voit, on comprend pourquoi j'aime bien les surnommer amicalement des tubercules ridicules. Mais on a aussi la poire de terre aussi, que j'aime dans cette gamme de tubercules.
Un mot sur la poire de terre quand même,
oui,
parce que rien que le nom.
Voilà, et donc, oui, non, on la trouve aussi sous le nom de yacon, beaucoup plus difficile à porter. la poire de terre, c'est l'exemple type de ces légumes qui n'ont pas beaucoup de saveur, en fait, mais qui sont une texture super intéressante. C'est très croquant, très frais. On peut les consommer crus, justement, passer à la mandoline, on peut les cuire dans du lait de coco.
Et il paraît qu'ils gardent leur croquant à la cuisson.
Il ne faut pas déprécier les légumes qui n'ont pas trop de saveur. Ils sont les excipients formidables des saveurs de choses qui n'ont pas beaucoup de volume. Il faut, c'est ça la cuisine aussi. Voilà. Hein.
Ouais. Et le yacon, on en fait même un édulcorant naturel. On fait réduire le jus comme un caramel, en fait. Et ça sucre tout.
Et la poire de terre a cette texture qu'on compare un peu à la poire ou à la pastèque.
Elle s'appelle poire de terre parce qu'elle est souterraine au niveau des tubercules comme une pomme de terre, et parce qu'elle a une texture assez granuleuse qui rappelle celle de la poire. Et elle a ce côté magique. Hein. Vous pouvez la cuire pendant 12 heures et elle restera croquante. Donc ça, c'est assez extraordinaire dans les plats mijotés parce que on est habitué aux racines qui s'écrasent, qui deviennent très fondantes, etc. L'igname, par exemple. Et non, elle garde le croquant, elle se charge de toutes les saveurs du plat et restitue. Donc c'est vraiment génial.
On me dit gros succès de l'oca du Pérou. C'est vrai qu'on ne peut pas le louper sur les étals, notamment à cause de sa couleur très surprenante, fuchsia, ovale. Il y a des plis très profonds sur cette racine. Il est quand même très beau. Hein.
Ah oui, celui-ci est très très joli. Effectivement, il est une vraie attraction sur un étalage, puisque on peut manquer de couleurs. Donc là il nous la ramène. L'oca du Pérou, moi, je trouve ça très, très bon. Et juste une difficulté, c'est de le cuire bien pour pas qu'il devienne, qu'il s'écrase et qu'il devienne pâteux et désagréable. Donc tout le travail, à mon sens, est vraiment dans le fait de surveiller consciencieusement la cuisson.
Il nous reste une poignée de minutes pour évoquer, enfin, cette patate douce qui est là aussi. Vous disiez en préparant l'émission, c'était un peu considéré comme la cuisine de négro. Hein. C'est-à-dire la cuisine d'esclaves, c'est le truc auquel on s'intéressait pas trop.
Voilà, c'est Joséphine de Beauharnais qui nous amène la patate douce au château de la Malmaison. Et donc, elle demande à ce qu'on les cultive. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle demande, c'est qu'elle exige. Ce qui fait que quand elle est en disgrâce, on dit, bon, ce truc un peu d'esclave, etc., on va le laisser tomber. Et la patate douce a été oubliée à ce moment-là, alors qu'elle avait été mise en culture, quand même.
Et là, c'est encore grâce à l'agriculture bio qu'elle est réapparue sur nos étals depuis quelques années.
Ah oui.
Et qu'on mange de la patate douce bien de chez nous, qui pousse sous nos latitudes.
Ah oui, c'est ça, c'est pas une nouveauté qu'on puisse la cultiver. On l'a cultivée il y a déjà plusieurs siècles, quand même. C'est juste une question de curiosité.
Esther, elle fait des grimaces de plaisir, d'extase. Que se passe-t-il ?
Elle a raison.
C'est le dessert de Franck.
C'est vrai qu'il est fou, paraît-il.
De la bombe.
Et un gros cube de patate douce confite. Avec du sarrasin qui croque et une petite glace à côté, c'est...
Ouais, ça c'était en plus, on a fait une glace au topinambour.
Ouais. Ah génial.
C'était pas prévu, mais...
Mais c'est super. Commençons par cette patate douce rôtie au miel.
Ouais.
Comment vous vous y prenez? Parce que c'est très surprenant et je prédis un gros succès de cette recette auprès de nos auditeurs.
Et c'est une patate douce épluchée.
Oui.
Coupée en gros cubes, à peu près de 1 cm sur 1 cm, peut-être un petit peu plus. Et puis en fait, c'est hyper simple. Vous faites du jus de citron vert.
Oh là là.
Que vous mélangez avec un petit peu de miel. Vous versez aux 3/4 de hauteur sur les dés de patate douce dans un plat qui va au four. Et vous le mettez au four. Voilà.
Mais c'est ça le côté aigre doux acidulé. C'est l'association du miel et du citron vert.
Ouais, tout à fait.
C'est
plus
formidable.
Le goût de la patate douce. Et puis, le liquide va réduire, va caraméliser un petit peu. La patate douce va sécher un petit peu. Et parce que c'est assez agréable aussi. Moi, j'aime bien quand les légumes, vous savez, rabougrissent un peu, sèchent, noircissent un peu sur les coins et tout ça. Ça, c'est vraiment très bon. Et puis, nous, on le sert avec du sarrasin soufflé, une petite tuile. Et puis,
c'est une bonne idée, le sarrasin soufflé. Ça apporte une note de rusticité. Comment on s'y prend pour le sarrasin soufflé?
On le blanchit aussi. On prend les graines qu'on blanchit dans l'eau pour l'attendrir un petit peu, dans l'eau bouillante. On les goûte bien bien séchés, et ensuite on le frit à 170 degrés.
Et c'est quoi cette prise de poudre fine là,
C'est menthe, poudre de menthe, et il y a une huile de menthe. Alors c'est le même procédé que l'huile de persil dont on parlait tout à l'heure.
D'où vient cette note formidable vanillée? C'est la pulpe, la chair elle-même de la patate douce qui a cette...
Il y en a un peu dans le topinambour.
Naturellement, la patate douce est quand même assez vanillée.
Oui. c'est comme ça évoque les goûts rhum, ananas, on fait des connexions aussi dans notre cerveau sur les accords de goût qui vont ensemble. Ouais, l'un appelle l'autre naturellement.
Ouais. Bah... Je pense que ça, tout de suite, ça nous évoque un peu les tropiques. Ah, j'ai oublié de mettre la pâte de coin. Bon, je vous la ferai goûter après.
Ah, la pâte de coin, bon, là, on est plutôt dans un fruit, on est moins dans un légume aérien, c'est pas grave, on est pas hors sujet. Patate douce, rôti au miel, pâte de coin, crème crue, citron vert. Formidable recette signée Franck Baranger. On peut aussi la déguster dans vos établissements ou pas?
Dites-nous. Elle y est en ce moment.
Ah, bonne nouvelle.
Caillebotte.
Au Caillebotte. Et vous avez aussi le Pantruche.
Il y a la
Et belle maison dans le quartier Pigalle. Merci infiniment, Franck Baranger. C'est pas la première fois que vous venez et on vous réinvitera.
Toujours
ça,
un plaisir.
C'est certain. Xavier Mathias, merci. Une petite actualité exceptionnelle. Bientôt vous reviendrez pour un livre que vous signez en ce moment avec le célèbre ethnobotaniste François Couplan sur une thématique géniale.
Ah oui, c'est comment produire des protéines dans son potager, tout en apprenant aussi nature et culture à récolter celles que la nature nous offre spontanément.
Des protéines au potager, en voilà une bonne idée, vous viendrez nous en parler, c'est une promesse?
Avec plaisir.
Ça se passe quand la sortie du bouquin?
Février-mars.
Maison d'édition?
Larousse.
Merci beaucoup Xavier, à très bientôt la semaine prochaine, une émission à l'accent italien. De Florence à Pietrasanta, en passant par Sienne et Pise, on vous propose un voyage dans les marmites de la Toscane pour une fabuleuse cucina povera avec notre experte Alessandra Pierini. Dans les fauteuils des chroniqueurs, il y aura Elvira Masson et Jérôme Gagnès. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.